Des femmes.
Des hommes.
Des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de l'Ain.
Bonjour amis auditeurs, aujourd'hui je suis à Briançon et je suis avec Luc Marquello. Luc Marquello, vous avez une histoire importante en ce qui concerne les migrants et leur accueil. Eh bien, présentez-vous d'abord, Luc.
Oui, bonjour. Donc, je suis Luc Marquello. J'ai été, durant une longue carrière, directeur d'une MJC Centre Social à Briançon. Et avec une particularité, on s'est intéressé à la question des personnes migrantes sur notre territoire depuis très longtemps. Voilà. Et en 2015, on a accepté d'accueillir, dans le cadre du dispositif national des CAO, qui étaient les centres d'accueil et d'orientation, que le gouvernement avait voulu mettre en place pour désengorger Calais. On a accepté, avec la mairie de Briançon, qui a accepté aussi, d'accueillir une vingtaine de personnes de Calais. Donc, ont été accueillis dans ce centre d'accueil qui était la MJC avec des logements en ville. Et ce premier centre a été une sorte de mobilisation de la ville autour de la question de comment accueillir, comment se mobiliser et de prendre conscience de la réalité de l'exil, puisque Calais était bien loin et même Briançon, qui était ville frontière, ne connaissait pas du tout ces questions-là de manière régulière, quoi. Elle ne fréquentait pas l'exil au quotidien.
Et là, donc, Briançon, donc, finalement, est devenue une ville accueillante. Et parallèlement, des gens sont arrivés d'Italie.
Oui, alors, Briançon est une ville accueillante depuis longtemps dans son histoire.
Elle l'était déjà.
Elle l'était déjà. C'est une ville de frontière. Mais avant la frontière, il y avait d'autres partitions entre l'Italie qui n'existait pas et la France et la Savoie. Donc ça nous mène très loin. Il y a toujours eu des gens... C'était un lieu de commerce. Donc il y a eu beaucoup de passages. Il y a eu des armées qui sont passées. Et puis dans l'histoire plus contemporaine, il y a eu toute l'histoire du tourisme et du climatisme qui ont été, depuis le 19e siècle, vecteurs de mouvements de population et d'accueil de population autour de la tuberculose, l'asthme et puis autour du développement des loisirs de montagne.
Et donc vous vous occupiez d'une association qui s'appelait la MapMonde, c'est cela ?
Alors, la MapMonde était un service de la MJC, MapMonde voulant dire mission d'accueil des personnes étrangères, monde, parce que voilà, du monde entier. Et c'était un service de la MJC qui était en charge de l'accueil et de faciliter l'accueil et l'intégration des personnes résidant ou arrivant récemment sur le territoire. Mais on était beaucoup plus sur les migrations traditionnelles, Afrique du Nord, Turquie, qui étaient des gens qui s'étaient installés au cours de l'histoire autour de centres industriels ou du tourisme. Et qu'il fallait accompagner dans leur intégration les problèmes de papier, de scolarité, les problèmes sociaux, le regroupement familial et des choses comme ça. Donc depuis 2003, on était sur cette question d'accueil. On accompagnait des personnes sur l'ensemble du département des Hautes-Alpes, à Briançon, mais aussi à Gap et à d'autres petites villes du département. Et c'est ce service qui a pris en charge ce CAO, ce premier CAO, puis un deuxième CAO l'année d'après, en 2016-2017. Et pendant ces deux périodes-là, c'est des périodes où des personnes en exil sont arrivées spontanément par l'école enneigée, en plein hiver, sont arrivées à Briançon, dans la vallée de la Clarée, essentiellement, et ont été accueillies spontanément par les gens de Névache, en pleine nuit, qui, le lendemain, connaissant la MJC, ont amené ces personnes à la MJC. Et là a commencé une nouvelle voie de passage qui s'est élargie, puisqu'il y a toujours eu du passage, mais très discrètement dans les dernières décennies. Et là, ces personnes ont ouvert une voie de passage avec le blocage de Menton, l'arrivée massive de personnes en Italie. Quand on arrive au nord de l'Italie, à Turin, Milan, il n'y a pas beaucoup d'échappatoires pour aller en France. Il y en a deux. Il y a Montgenèvre, le col de l'Échelle, Briançon, et la Savoie par le tunnel du Fréjus, qui, lui, est extrêmement contrôlé. Donc c'était une nouvelle voie qui s'ouvrait.
Et Briançon a fait figure de modèle à ce moment-là.
La chance que nous avons eue, c'est que autour de CAO, il y a une mobilisation citoyenne très forte. Il y avait l'accompagnement de la collectivité locale qui était favorable à cet accueil. Donc il y avait une version... La ville devenait une ville accueillante et portée par... Alors il y avait la MJC, mais très rapidement, il y a eu beaucoup d'autres acteurs. D'abord, toutes les associations caritatives sont venues au secours de cette question-là. Secours catholique, Resto du Cœur, le Secours populaire... La Croix-Rouge au départ, et puis petit à petit, il a fallu créer d'autres structures nouvelles parce que l'accueil est devenu de plus en plus compliqué, de plus en plus de personnes arrivées, et il a fallu trouver des nouvelles formes. Donc d'abord, ça a été des familles, donc un accueil citoyen, puis ça ne suffisait pas, il a fallu trouver d'autres formes, et là, la mairie de Briançon et la communauté de communes ont prêté un espace d'accueil à une association nouvellement créée, qui s'est appelée le collectif Refuge Solidaire, et qui a co-signé un bail d'occupation à titre gracieux avec la mairie, avec la communauté de communes de Briançonnet, avec Médecins du Monde, qui est venu en renfort dès le début.
Vous avez prononcé le terme de refuge solidaire, donc il y avait de la solidarité.
Voilà, il y avait de la solidarité, et cette association s'est donnée pour objectif l'accueil inconditionnel des personnes, pour qu'elles se posent un peu sur un concept des hospices des grands cols, c'est-à-dire que les passants, peuvent s'arrêter, se restaurer, se soigner, prendre des conseils et repartir sur leur parcours de migration, puisque c'est le cas.
Et alors, si on parle de la solidarité des gens de mer, c'est un petit peu la même chose avec la solidarité des gens de montagne ?
Oui, c'est la même chose, parce que cet accueil physique de soins, nourriture et indications pour la poursuite du voyage, c'est doublé de la nécessité de nuit, d'être en montagne pour éviter les drames. Il y a eu plusieurs drames, on est à presque une dizaine de morts en montagne liées à ces passages. Et donc des gens, spontanément, sont organisés d'abord individuellement, puis après en collectif, pour faire des maraudes la nuit, en hiver, pour porter secours, côté français, à des personnes qui seraient perdues dans la montagne.
Et cette solidarité a fait venir de nombreux scientifiques qui se sont intéressés au phénomène et qui ont vu donc une voie.
Alors, Briançon, très rapidement, a été d'abord un petit peu assailli par les journalistes. Voilà. On est devenu un spot journalistique national et international. Et très rapidement, à la fois des chercheurs ou des personnes plus artistiques sont intéressés à ce qui se passait à Briançon et ont contribué très rapidement à documenter la réalité à la fois de la solidarité, mais la réalité aussi de la répression et par les forces publiques.
Alors cette réalité de la répression, elle s'est assombrie, puisque donc vous avez été obligé de quitter les structures qui existaient. Racontez-moi.
Oui, en 2020, il y a eu des élections municipales, il y a eu un changement politique important à Briançon, et le nouveau maire, président de la communauté de communes, a décidé de retirer au refuge solidaire le lieu d'accueil. Donc il a fallu, d'abord il y a eu une mobilisation nationale portée par 40 000 signatures très diverses pour dire qu'il y avait le souhait que le refuge reste. Et donc il y a eu une négociation et la société civile solidaire a trouvé la voie en disant « on va partir, laissez-nous le temps de trouver un lieu privé et on va déménager ». Et donc en 2021, on a déménagé en août 2021, puisque pendant l'hiver 2020-2021, on a travaillé à des solutions avec des mécènes et de la mobilisation citoyenne pour trouver un lieu d'accueil. Ce lieu d'accueil est un ancien sanatorium briançonnais, comme j'ai parlé du climatisme précédemment et de la tuberculose.
Donc, oui, il fait partie de l'histoire du pays.
Voilà, donc on est bien sur une ville qui a accueilli des gens pour diverses causes, la cause du loisir, mais aussi la cause de la santé. Et ce bâtiment a été libre. Et donc on a mobilisé des fondations et des citoyens, comme je le disais, pour acheter ce bâtiment. Et entre janvier 2021 et juin 2021, nous avons acquis le bâtiment, transformé en juillet et en août une partie de ce bâtiment sur les 6 niveaux dont il dispose. 3 ont été rénovés, mis en sécurité. Et le 28 août, je crois, si je me souviens bien, en tout cas fin août 2021, on ouvrait le bâtiment avec, dedans, le refuge solidaire qui était donc dans l'autre bâtiment public, Médecins du Monde, ECHO, qui est une association qui travaille sur l'OTEC réfugié et qui accompagne les personnes sur des réparations de téléphone, mais sur des choses très simples et qui l'ont facilité.
Toute une myriade d'associations donc autour de ces migrants, donc pour les être en solidarité avec eux, les aider, les accompagner.
Voilà, oui, donc notre ambition, c'était d'ouvrir ce lieu, bien sûr, sur le prétexte de la question de l'accompagnement des gens en exil. C'était le centre du projet, mais aussi de permettre peut-être à des associations locales, ça c'était notre grand projet, de pouvoir aussi cohabiter dans le lieu et que ce soit un lieu vivant et ouvert sur le territoire et à la question de l'exil. Pour l'instant, le lieu ne permet pas ça par sa taille et la partie qui est occupée, Donc on appelait ça une sorte de tiers-lieu, hein, pour dire, ou un lieu collectif. Pour l'instant, c'est un tiers-lieu puisqu'il réunit plusieurs associations, mais autour d'un seul objet, pour l'instant, qui est l'exil, on va dire. Voilà.
Alors, est-ce que c'est un fonctionnement privé? Est-ce que ça a changé beaucoup de choses par rapport au fonctionnement précédent?
Déjà, d'être obligé de fonctionner qu'avec des fonds privés et de plus avoir d'appui à la fois politique, mais aussi matériel d'autorité publique, c'est une différence. C'est-à-dire qu'on est devenu quelque chose qui est à côté de la société instituée française, quoi. Voilà. Donc, quelque part, on est considéré comme des gens qui faisons des choses un peu illégales. Voilà.
Vous n'avez plus l'appui public.
On n'a pas d'appui public. Voilà. On a perdu l'appui public local, communal et intercommunal. Et ça a toujours été compliqué avec les autorités d'État, évidemment. Voilà.
Donc, ça demande peut-être un surcroît de force et d'efforts.
Ben c'est surtout, oui, c'est dommage qu'une ville pouvait être une ville accueillante avec, il y a eu des parrainages républicains, par exemple, de personnes qui ont pris, pour les premiers qui sont arrivés, certains sont restés à Briançon. Aujourd'hui, il n'en est plus question puisqu'on en est à des nombres importants de passages, 3 000, 4 000 par an qui passent. Donc, ils vont pas tous rester à Briançon. Ce n'est pas du tout l'objectif. Les premiers certains sont restés. Et il y a eu des parrainages républicains. Il y avait aussi un appui moral, politique et matériel de la collectivité. Et ça, c'est très important. On l'a perdu pour l'instant.
Vous l'avez perdu pour l'instant. Et donc, vous avez toute cette myriade, notamment quand même, j'ai vu qu'il y avait 400 bénévoles qui travaillaient sur la structure. Pas en même temps. Donc, de la bonne volonté pour suppléer, je dirais, donc au déficit de puissance publique et d'aide publique.
Oui, c'est toute la question. C'est-à-dire que l'action citoyenne, qui aujourd'hui est basée... Le commun de cette action, c'est accueillir les gens dignement, parce que ce sont des humains qui ont droit à être soignés, à être informés, de leurs droits, de pouvoir manger et dormir. Donc il y a 400 personnes à peu près, mais par an, voire plus, qui viennent, alors soit locales, mais évidemment, il n'y a pas 400 personnes localement qui vont... On est un petit territoire de 11 000 habitants, ou de 20 000 avec la communauté de communes. Donc il y a des gens qui viennent de toute France, voire d'Europe, passer une semaine, 15 jours, un mois. Il y en a qui restent plus, de tous âges. Il y a beaucoup de jeunes, mais il y a aussi des personnes retraitées, d'autres personnes. Il y a l'appui de Médecins du Monde à côté, avec des bénévoles de Médecins du Monde aussi.
Alors Médecins du Monde bénéficie également de l'ARS ?
Alors, en fait, Médecins du Monde est indépendant, mais le refuge solidaire bénéficie d'un appui de l'ARS à deux niveaux. C'est le seul appui public dont dispose le refuge. C'est le lavage du linge par l'hôpital. Et la mise à disposition de l'APAS, qui est la permanence d'accès aux soins, il y en a dans toute la France, dans tous les hôpitaux, c'est un lieu qui permet aux personnes sans sécurité sociale de pouvoir accéder à des soins minimums, voire plus si c'est nécessaire. C'est l'hôpital qui gère ce truc. Et il y a des permanences, donc c'est une passe mobile, qui se font dans le refuge par des infirmiers pour détecter les problèmes de santé.
Voilà. Donc voilà, ce refuge qui essaye de cadrer tous les problèmes de vie que peuvent avoir des personnes migrantes. Et ce refuge, aujourd'hui, donc, il a une quantité de personnes qui sont arrivées qui n'est pas trop importante, mais il est arrivé des moments où ça débordait.
Oui, alors c'est un bâtiment donc qui est aux normes des établissements recevant du public, donc il y a des contraintes. Ces contraintes fixent un seuil actuellement dans sa dimension de 80 personnes à peu près qui peuvent être logées. Et donc ça, c'est quand tout va bien, ça se gère très très bien. Mais il y a eu des périodes d'afflux plus importantes de personnes, jusqu'à 100 personnes par jour qui arrivaient. Ça, c'est exceptionnel, mais c'est arrivé. Et là, il y a le débordement du refuge qui a provoqué à deux fois dans son histoire une fermeture ponctuelle, mais on a été obligé de fermer le lieu parce qu'il est devenu ingérable et dangereux pour les personnes accueillies, ce qui n'est pas l'objectif.
Parce que vous m'avez montré une salle de jeu, la seule, et cette salle de jeu était pleine.
Elle était devenue un dortoir. Voilà, par exemple, la salle le réfectoire, qui en fait c'est la salle commune de vie et pour les repas, était devenue un réfectoire. Donc, et voilà. Et puis la cohabitation de 300 personnes maximum, quoi qui était le maximum qu'on ait atteint dans un bâtiment, avec toutes les origines, toute le drame que vivent ces gens sur l'exil était pas tenable. Voilà. Donc à deux fois dans son histoire, le refuge était fermé. Deux fois, il a pu rebondir avec l'aide de l'Église sur des terrains paroissiaux, l'église, même une fois l'église a été ouverte pour accueillir, de manière ponctuelle. Voilà, mais ça demandait.
Là, vous me parlez d'aide de l'église, mais pas d'aide de l'État.
Non, toujours, je parle de l'État. Regarde ce lieu comme un lieu qui rend service, je pense, à tout le monde, puisque ça évite d'avoir des situations comme à Calais. Mais ne considère qu'il n'existe pas, quoi, et qu'il est illégal. Voilà. Donc c'est très paradoxal.
Occuper tous ces gens qui n'existent pas et qui existent.
Voilà. En termes de vocabulaire, on a plutôt tendance à parler d'exil et que de migration. C'est des gens qui sont sur des parcours d'exil. Ce terme nous convient bien. Ils veulent aller quelque part où ils ne savent pas, mais il va falloir qu'ils trouvent leur destination. Ils sont partis pour des raisons hyper différentes, d'Afghanistan, d'Afrique subsaharienne, du Soudan, de Mongolie. On en a eu même une personne chinoise, des Nord-Africains, de Syrie, d'Iran. Et ces gens vont, avec des vagues différentes, se croiser ici.
Quand vous parlez d'exil, c'est-à-dire que vous préférez parler de personnes?
Oui, on parle de personnes. Voilà, c'est vraiment des personnes et on les accueille comme des personnes. Ce qui devrait être le commun des mortels devrait accueillir tout le monde comme des personnes, comme son frère humain, quoi. Voilà. Et un peu, c'est ce qui motive et qui fait le cœur d'un assemblage de personnes qui peuvent avoir des postures très différentes. Certaines ont des postures très politiques, d'autres ont des postures très caritatives. Mais le commun de tout ça, c'est un accueil digne des personnes, quelle qu'elle soit leur origine, leur religion. Elles doivent être accueillies. Après, il faut voir tout ce qui va avec, le statut, et ça, c'est pas à Briançon que ça peut se faire. C'est automatiquement dans les grandes villes, malheureusement. Et donc, ces gens-là sont obligés d'aller dans les grandes villes pour poursuivre leur parcours, ou voire aller dans d'autres pays d'Europe, puisque certains ne veulent pas rester en France.
En tout cas, sur leur chemin, ils retrouvent aujourd'hui les terrasses solidaires. Merci, Luc, de m'en avoir parlé aujourd'hui.
Amis auditeurs, si vous voulez vous informer sur les structures aidantes des terrasses solidaires, peut-être même les soutenir, voici leurs coordonnées. 4 structures, donc la première c'est les refuges solidaires, refugesolidaires.com. La seconde c'est l'association ECHO, asso-echo.org. La troisième c'est l'association Tous Migrants, tousmigrants.webly.com. Et la quatrième c'est Médecins du Monde, médecinsdumonde.org. Amis auditeurs, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission.